5,000 migrant caravan crossing Mexico, marching toward our border. Dangerous illegal criminals like cop killer Luis Bracamontes don't care about our laws. America cannot allow this invasion. The migrant caravan must be stopped. President Trump and his allies will protect our border and keep our families safe. America's future depends on you. Stop the caravan. Vote Republican.
I'm Donald Trump and I approve this message.
Vous l'avez entendu et compris, j'imagine. Stopper cette caravane, voter pour les Républicains. Il y a eu une rime, Frédéric Saïs, un mot sur ce clip. On ne pourrait pas voir cela, pour le moment en tout cas en France.
Non, en tout cas, au niveau de la musique, on est clairement dans l'épique, on est dans quasiment la bande-annonce. Ça donne plutôt envie d'aller voir ce film. On se dit qu'il va y avoir un super-héros au pouvoir démesuré. Après, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que ça a convaincu des gens de voter? Ou est-ce que ça a dégoûté une partie des gens qui ont dit ce n'est pas du cinéma, c'est de la politique?
Eh bien, c'est ce que nos analystes va voir justement Frédéric avec nos invités. Je vous rappelle juste pendant quelques instants les résultats. Pour l'instant, donc, les démocrates ont eu la Chambre des représentants, tandis que les républicains, eux, conservent leur majorité au Sénat. Et nous sommes en compagnie de deux écrivains, Marc Wetzmann, notre camarade qui publie Un temps pour haïr chez Grasset et qui est également le producteur de l'émission Signe des temps sur France Culture. Une autre romancière, Rachel Kushner, qui a obtenu le prix Médicis étranger pour un livre formidable, Mars Club, chez Stock. Et nous avons deux représentants des partis américains, Constance Bord pour les démocrates et Rachel Herring qui, elle, représente les républicains. Et mon camarade Camille Magnard qui va nous donner les différents résultats et les titres de la presse. Camille, peut-être un mot tout d'abord.
Alors, on pourrait commencer pour essayer d'avoir une vision un peu globale de ces résultats. On est à 95% à peu près des résultats, nous dit Fox News sur son site internet qui est actualisé en temps réel. Le titre, le grand titre de Fox News en ce moment, c'est Split Decision. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très tranché, d'une séparation, justement, d'une rupture entre, justement, les démocrates qui prennent la Chambre des représentants et les républicains qui restent majoritaires, qui confortent leur majorité au Sénat. Donc c'est un petit peu balle au centre selon les résultats tels qu'ils peuvent être analysés pour l'instant par Fox News, la chaîne donc dont on sait qu'elle est chère au cœur du président Donald Trump.
Un résultat mitigé alors que l'on sait, Camille, qu'il est traditionnel pour un président de perdre ses élections à mi-mandat. On va tout de suite demander son avis à l'écrivaine Rachel Kushner. Que pensez-vous de ces résultats, votre analyse?
What do I think of the results?
Ce que je pense des résultats?
Well, since I'm here as a somebody who writes novels,
eh bien, puisque je suis là en tant qu'écrivain, quelqu'un qui écrit des romans et qui a écrit récemment un roman, le Mars Club en français.
The book is really about California.
Mon livre parle de la Californie, une région, une société et un endroit qui est marqué par des inégalités extrêmement fortes. C'est un État qui a davantage dépensé pour les prisons que pour l'éducation supérieure et davantage dans les prisons que n'importe quel autre État de l'Union. Ce mouvement très long de l'histoire qui a conduit à incarcérer les pauvres, ça se passe depuis les années 80 et il y a eu un pic en 2012, depuis 2012. Que le gouverneur ait été démocrate ou républicain en Californie, il n'y a quasiment pas de différence par rapport à ce renforcement de cette tendance carcérale de l'État. Et donc pour moi, quelqu'un qui a consacré des années à écrire un roman sur l'État d'où je viens et sur les divisions au sein de la société bourgeoise aux États-Unis, la division entre les républicains et les démocrates ne me semble pas une conclusion pertinente par rapport aux problèmes qui me concernent moi.
Alors votre héroïne, par exemple, Romy Hall, c'est une jeune femme de 29 ans, elle est blanche, elle est incarcérée dans une prison pour femmes de Californie. Vous suivez ce trajet qui est un trajet fait de pauvreté, de misère et de drogue. C'est une stripteaseuse qui est harcelée par l'un de ses clients et qui va progressivement plonger dans un climat donc d'extrême pauvreté, ce type de gens qui sont en chute aujourd'hui, ils sont complètement éloignés de ce système politique. Est-ce que les pauvres de Californie qu'elle représente dans votre roman Mars Club, est-ce que ceux-ci sont aujourd'hui représentés, Rachel Kushner?
It's a very good question. I don't quite
C'est une excellente question. En fait, je ne suis pas sûre de connaître la réponse. D'un point de vue politique, la Californie est très largement démocrate, mais d'un point de vue local, c'est très divisé. La vallée centrale de Californie, où nous produisons quasiment la moitié de l'alimentation consommée dans notre pays, est très largement conservatrice et républicaine. C'est aussi une région très pauvre. L'économie repose sur l'industrie carcérale qui est financée par l'État. Les gens qui vivent dans les cités sur la côte, qui sont beaucoup plus éduqués, les gens de Los Angeles, de San Francisco, de la région de la baie, sont tous des démocrates, mais ce sont aussi des gens de la classe moyenne, plutôt aisée. Et donc les divisions au sein de l'État reflètent une complexité réelle aux États-Unis. Ceux qui souffrent le plus du manque d'aide sociale et de sécurité sociale, de filet de sécurité aux États-Unis, ont tendance à être enthousiasmés par les leaders populistes. Je vis à Los Angeles. Il y a presque 100 000 SDF dans cette ville. Et si vous allez sur Skid Row, les gens ne sont pas impliqués dans la politique. Ils ne votent pas. Beaucoup d'entre eux n'ont pas le droit de voter. Parce qu'ils ont été condamnés, parce qu'ils ont un casier. Et aussi parce que tout au long de leur vie, ils n'ont jamais vu de différence, justement, sur leur vie. Quand un démocrate était président ou quand un républicain était président. Donc, la manière dont je vois ces questions, je n'ai pas vraiment tendance à croire qu'il y aura du changement s'il y a une victoire des démocrates au sein de la Chambre des représentants.
Camille Magnard, un résultat.
Alors, c'était un aspect vraiment particulier, un peu décalé de tous ces votes qui ont eu lieu aujourd'hui dans le cadre des midterms. Il y avait aussi des consultations populaires dans certains États sur des réformes très précises des lois électorales. En Floride en particulier, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, les électeurs ont donné une majorité au fait de permettre à nouveau de voter, de rendre le droit de vote aux personnes qui ont été condamnées pour crimes. Ça représente 1,5 million de personnes, des catégories de la population bien particulières. Beaucoup d'observateurs disent que ça peut changer vraiment les équilibres électoraux et voilà, élargir ce droit électoral. Je voulais savoir un peu ce que vous pensez. Vous parlez, vous, de la Californie, mais là, en Floride, on voit quelque chose qui bouge sur le corps électoral.
La réaction de Rachel Kushner, qui a publié le Mars Club, elle est prix Médicis étranger. Rachel Kushner.
It's a very good question about Florida.
C'est une excellente question en ce qui concerne la Floride. Je ne veux pas avoir l'air d'être cynique et je trouve ça formidable que le droit de vote que les gens méritent leur soit ainsi rendu. Mais il y a beaucoup de gens en Floride, dans les régions rurales, comme partout aux États-Unis, et dans les grandes villes, qui ont souffert des ravages de l'industrialisation, de la désindustrialisation, et qui ont besoin, en plus du droit de vote, d'avoir accès à de l'eau potable, à un travail correct, à une éducation, à un logement. Ils ont besoin d'aide de la part de leur gouvernement. Et ils ont besoin d'avoir accès au droit à vivre une vie qui ait du sens. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ça aux États-Unis. Donc même si, évidemment, je suis très enthousiaste à l'idée que les gens puissent voter, comme je travaille beaucoup avec des anciens détenus, je peux vous dire qu'ils ont besoin de beaucoup d'autres choses encore, et pas seulement ça.
Une réaction des Républicains. Rachel Herring, vous représentez les jeunes Républicains pour la France. On a entendu Donald Trump tout à l'heure se féliciter du résultat de ce scrutin. En réalité, les journaux disent que ces résultats sont plus mitigés qu'il n'y paraît. Votre réaction ?
Oui, mais ce matin, nous sommes très contents que nous avons gardé le Sénat. En fait, c'est historique que le Congrès, le la maison du Congrès,
la Chambre des représentants.
Oui, Chambre des représentants, devenir à l'opposition de la partie du président, sauf deux exceptions. Et donc, c'était après 11 septembre.
Et voilà, il y a eu deux exceptions. Effectivement, Bill Clinton, dans cette procédure d'impeachment, eh bien, les républicains ont payé cette procédure d'impeachment. Et le 11 septembre, avec un soutien massif à George Bush.
Oui. Exactement. Et en fait, après ça, aux États-Unis, la Chambre des représentants est plus volatile.
C'est-à-dire qu'elle change plus rapidement de parti, et donc vous attendiez à ce qu'il y ait peut-être une victoire des démocrates, ce qui est le cas d'ailleurs, puisque les démocrates s'approchent de la majorité absolue. La majorité absolue à la Chambre des représentants est de 218 sièges, les démocrates sont à 214 sièges, tandis qu'au Sénat, les résultats sont stables. Et les titres de la presse, Camille Magnard.
Eh bien écoutez, c'est encore une fois cette capture de la Chambre des représentants du Congrès par les démocrates qui fait la une du New York Times, et en même temps les républicains qui renforcent leur majorité au Sénat. On est également sur, donc ça c'est les titres du New York Times, sur The Hill, le site spécialisé sur l'actualité politique à Washington. On fait le même constat avec cette idée donc que les démocrates sont de retour, sont renforcés, en tout cas à la Chambre des représentants, pour venir affronter dans cette deuxième partie de mandat Donald Trump.
Alors, vous l'avez entendu, c'est un peu comme en France. Hein. En France, dans les soirées électorales, chaque parti est très content de la victoire qu'il vient d'emporter. Donald Trump lui-même se félicite des succès qui ont été les siens. D'ailleurs, tiens, on va l'entendre. C'était une déclaration du 2 novembre, Donald Trump, au sujet de cette caravane des migrants.
C'est un grave problème de drogue qui afflue et détruit notre jeunesse, et vraiment qui détruit le tissu de notre pays. Il n'y a jamais eu de problème de drogue comme aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, cela provient en grande partie des frontières du Sud. En ce moment même, de grandes caravanes de migrants bien organisées marchent vers notre frontière sud. Certains appellent cela une invasion. C'est comme une invasion. Ils ont violemment envahi la frontière mexicaine. Vous l'avez vu il y a deux jours.
Marc Wetzmann.
Oui, je vais revenir sur ce qu'a dit Rachel Kouchner. Le portrait qu'elle a dessiné, le portrait complètement fragmenté qu'elle a esquissé des États-Unis au niveau national, mais aussi par État par État et région par région, je pense que c'est très vrai, et que Donald Trump a trouvé le facteur unifiant de ce pays en ce moment, et pas seulement de ce pays, qui est la colère. Et il surfe là-dessus de manière, et la violence. Et il surfe là-dessus de manière assez intelligente. Le paradoxe, c'est que, en essayant de refléter cette diversité, avec ces élections, le Parti démocrate prend le risque de refléter surtout les divisions.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est pas évident que tous les élus venant, les élus amérindiennes, les élus musulmanes, les élus homosexuels militants, aient forcément tous les mêmes intérêts.
Vous voulez dire que ça contribue à communautariser?
C'est très possible. C'est une vraie possibilité. Le Parti démocrate ne semble pas avoir trouvé pour l'instant le facteur qui unifierait le pays, comme Donald Trump l'a trouvé de manière négative. Il y a un truc remarquable, je m'arrêterai après, quand on regarde les tentatives de violence, les attentats qu'il y a eu, l'attentat avorté, les colis piégés déposés chez George Soros, chez Barack Obama, etc.
Attentats qui n'ont pas été avorté.
Oui, tout à fait. Quand on regarde ensuite la fusillade à Pittsburgh, et la synagogue de Pittsburgh, et puis quand on regarde aussi les 7 synagogues à Brooklyn qui ont été incendiées il y a quelques jours, quand on regarde le profil de ceux qui ont perpétré ces crimes, on trouve des gens très très différents. Le type qui a envoyé les colis piégés, j'oublie les noms là parce qu'il est 8h du matin, mais était un partisan de Donald Trump. Le tireur de la synagogue de Pittsburgh était un opposant opposant à Donald Trump, mais venait du monde de l'alt-right, mis en scène par Steve Bannon et structuré par Steve Bannon, quant au perpétrateur, quant à l'incendiaire des 7 synagogues de Brooklyn, qui reprenait à son compte les slogans du tireur de Pittsburgh, c'était un militant démocrate noir et homosexuel. C'est-à-dire que le seul facteur unifiant qu'on trouve, pour généraliser une seconde de manière abusive, c'est la violence et la colère. C'est là-dessus que Donald Trump surfe et ça marche.
Rachel Kushner, vous qui êtes écrivaine, je précise d'ailleurs que vous n'avez aucun lien de parenté avec Jared Kushner. D'ailleurs, votre nom, elle ne s'orthographie pas de la même manière, Jared Kushner étant le gendre de Donald Trump. Votre réaction, est-ce qu'il y a un risque de communautarisation? Est-ce que cette violence que l'on voit déferler aux États-Unis, on en est tout estomaqué, est-ce que vous l'analysez comme une conséquence directe, indirecte de l'élection de Donald Trump?
Je ne suis pas sûre que ce soit une conséquence de l'élection de Trump de façon directe, mais il a clairement ouvert la porte à quelque chose parce que ces incidents sont de plus en plus répandus. Et sa rhétorique, son discours permet à toute personne qui n'est pas blanche, chrétienne, née américain, de se, elle pousse chacune de ces personnes à se sentir en insécurité. Mais il y a aussi une tendance profonde et pathologique aux États-Unis. C'est un endroit qui est extrêmement marqué par la pathologie, la colère et la violence. Nous sommes le pays le plus violent du monde par beaucoup d'aspects. Et il y a une relation entre les types de violence auxquels nous assistons chaque jour et le fait que nous sommes les numéro un mondiaux en termes de taux d'incarcération. Et certains de ces aspects existaient déjà avant Trump, mais évidemment, il donne aussi aux gens le sentiment que ce pays est en train de plonger dans le chaos. Mais si vous êtes accro aux médias et que vous prenez Trump pour votre papa, qu'il soit gentil ou méchant, vous pouvez avoir une vision complètement tordue de la réalité en termes d'effets concrets de la présidence de Trump sur la vie quotidienne aux États-Unis. En tant que romancière, moi, je ne suis pas l'actualité au quotidien. J'ai tendance à prendre du recul et à regarder les tendances historiques beaucoup plus largement. Et je vois les gens, en particulier ceux qui vivent à New York, qui sont complètement obsédés par ce que Trump vient de dire sur Twitter. Ma vie n'est pas dictée par ça, déjà parce que Trump n'est pas mon papa, qu'il soit un papa gentil ou méchant, et aussi parce que je veux continuer à poursuivre à ma poursuite de la vérité au-delà du moment de ce qui se passe dans la politique américaine.
Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez intéressant dans le personnage de Trump. Vous parliez d'anti-moderne tout à l'heure, Mark Weitzman, un temps pour haïr se penche sur cette fibre anti-moderne de l'extrême droite. Or, Donald Trump a parmi ses partisans une frange de l'ultra-droite américaine. Il n'est pas uniquement soutenu par l'ultra-droite, mais il est quand même soutenu notamment par l'ultra-droite. Ça n'est pas un anti-moderne, c'est même un personnage plutôt très moderne. Il a 72 ans, mais il maîtrise très bien les nouveaux outils de communication. Et en un sens, on peut le déplorer, mais il faut le constater, il montre plutôt l'avenir de la politique.
Oui, tout à fait. Non, le courant anti-moderne qui a aidé à son élection, ce que j'appelle le courant anti-moderne qui a aidé à son élection, était plutôt représenté par Steve Bannon, par exemple, qui se définissait lui-même, qui se comparait lui-même à Lénine, hein, et il disait qu'il voulait détruire l'État.
C'est modeste, en tout cas.
Non, c'est pas du tout modeste, mais il y a ce côté... chez Steve Bannon, il y a ce côté nihiliste totalement destructeur qui est le grand paradoxe de l'époque, pas seulement aux États-Unis où on voit des gens anti-système représenter le système. Et c'est cette espèce de pulsion suicidaire qui me semble anti-moderne, cette haine du monde tel qu'il est, sur laquelle Trump a surfé sans être lui-même. Je pense que tous les observateurs s'accordent plus ou moins à dire que Trump n'a pas exactement d'idéologie. Il est ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un personnage tel qu'on... Emmanuel Ville a écrit un roman entier là-dessus, hein, The Confidence Man, qui montrait un escroc professionnel. C'est ce qu'est profondément Trump. Mais en revanche, autour de lui, ce qui s'est structuré autour de lui et ce qui est apparu autour de lui, notamment dans l'alt-right, c'est une tendance très surprenante aux États-Unis, opposée à tout ce que sont les États-Unis.
8h42 sur France Culture. On continue à évoquer le résultat de ces élections à mi-mandat et la presse américaine accorde une large couverture, bien entendu, à ce scrutin. The Atlantic, qui est un magazine de la gauche américaine, claironne et dit « The Democrats are back and ready to take on Trump », ce qui veut dire « Les démocrates sont de retour et prêts à conquérir ».« Take on Trump », comment le traduire, Marguerite Capel ?
S'attaquer à Trump, s'en prendre à lui. Trump.
Voilà, Camille Magnard, d'autres résultats et d'autres titres de la presse.
Alors, sur les résultats, on rappelle que le Sénat est aux Républicains avec 51 sièges, donc une majorité absolue à 50 et 3 sièges gagnés par les Républicains dans ces élections de mi-mandat. Et le Washington Post qui se lance dans un début d'analyse au-delà de ces résultats pour nous dire que cette majorité-là au Sénat américain, elle va être encore plus acquise aux thèses et opposition de Donald Trump. On sait que le Parti Républicain n'est pas forcément homogène autour de son président et là on voit que les trois personnes qui ont donc fait gagner les Républicains en allant conquérir des sièges de sénateurs à des démocrates, que ce soit dans le Nord Dakota, dans l'Indiana ou dans le Missouri, eh bien ce sont des très proches de Trump, ce sont des gens qui vraiment incarnent ce que le président impose dans le débat politique américain.
Alors, le fait que les thèses de Donald Trump ou les thèses des Républicains se radicalisent, Rachel Kushner, dans votre roman Le Mars Club, publié chez Stock, vous avez obtenu le prix Médicis étranger, et vous faites en quelque sorte la porte-parole d'une voix de femme, les femmes que Donald Trump n'a cessé d'attaquer. Ce que l'on ne comprend pas, c'est la raison pour laquelle il conserve un soutien dans l'opinion publique, parmi les électrices. Comment cela se fait-il qu'il est à ce point tourner le dos aux considérations élémentaires d'égalité, de dignité, et qu'il ait encore des femmes parmi ses électeurs.
Well, I don't think he's turned his back. I think he was born in that direction.
Je ne pense pas en réalité qu'il ait tourné le dos à ces questions. Je pense qu'il est né dans ce sens-là. Son père, Fred Trump, était membre du Ku Klux Klan. On a des informations là-dessus. Lors d'un rassemblement politique, il s'est arrêté une fois et il a crié au public « Où est ma super top modèle ?» Ça peut sembler drôle jusqu'à ce qu'on réalise que ça ne l'est pas du tout. Mais j'ai écrit mon roman et je l'ai terminé bien avant que Trump ne soit ne serait-ce qu'un candidat potentiel, même une toute petite possibilité pour les élections. Le monde que j'ai décrit, mes efforts pour essayer de décrire avec une certaine vérité différentes formes de pression qui s'exercent sur des personnages comme les femmes de mon livre ne sont pas directement rattachés, n'ont pas directement à voir avec Donald Trump lui-même. Je ne le considère même pas comme la manifestation ultime de la misogynie. Je pense qu'il représente quelque chose qui existait déjà. Quand on parle de l'extrême droite, de l'alt-right et de Steve Bannon, je pense qu'ici, vous avez des auteurs qui ont déjà expliqué ce que c'était que cette ultra-droite, bien avant qu'elle existe, et il y en a un en particulier, c'est Michel Houellebecq. Il a parlé des perdants de la révolution sexuelle et de ce que ça a donné en termes d'idéologie. Dans mon livre à moi, j'écris sur les hommes et les femmes. Et même si ça peut paraître un peu naïf en tant qu'auteur, je suis persuadée que tous les humains ont une âme et je ne choisis pas de décrire les personnages qui sont positifs ou négatifs en fonction de leur sexe. Chaque personnage de mon livre est soumis à différents types d'oppressions et de problèmes.
Marc Weitzman, un commentaire par rapport à ce que vient de dire Rachel Kushner.
Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Quand on pense à Steve Bannon, on est presque systématiquement renvoyé à la France. Effectivement, Michel Houellebecq est un de ceux qui ont le mieux mis en forme La tendance, l'espèce d'amertume qui est montée parmi certains hommes occidentaux à partir des années 80-90. Mais les références de Steve Bannon, les références intellectuelles de Steve Bannon sont étonnamment constantes dans leurs racines françaises. Jean Raspail, le romancier oublié qui a été remis au goût du jour, mais surtout évidemment Charles Maurras, qu'il a cité plusieurs fois comme une source d'inspiration. Et il est certain que la France a été le terreau, il reste le terreau d'un mouvement qui a des racines historiques et littéraires profondes, mais qui se caractérise par un refus de la modernité.
Moi, je n'aimerais ôter aucun mérite à Michel Houellebecq, mais il me semble quand même que l'anti-intellectualisme est une tradition américaine et, à cet égard, Donald Trump l'incarne fort bien, Rachel Kushner. Et c'est en quelque sorte une pierre dans votre jardin, je pourrais dire aussi dans notre jardin, que la montée de ces voix-là.
I don't know what the question is.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.
L'anti-intellectualisme que professe le Parti républicain aujourd'hui est une manière aussi de se venger d'une élite qu'incarnent les écrivains, et les universitaires.
I think it's absolutely true. And,
oui, je pense que c'est tout à fait vrai.
I don't want to appear non-partisan. I have my
je ne veux pas avoir l'air de n'avoir aucune opinion. En fait, j'ai mon propre point de vue politique, mais je pense que les démocrates jouent parfois un rôle là-dedans. Il y a un chroniqueur, Edward Luce, dans le Financial Times, que j'aime beaucoup et qui a écrit régulièrement sur le ton adopté par les élites démocrates. Quand on regarde aujourd'hui, quand on considère la carte, quelles zones du gouvernement, du pays sont devenues bleues, ce sont principalement les gens qui vivent dans les grandes villes, qui ont un haut niveau d'éducation et qui possèdent en fait l'essentiel des richesses des États-Unis. Et beaucoup de ces personnes, les véritables riches du pays, ont soutenu Obama et ont soutenu Clinton. Et peut-être que leurs opinions sont proches de les miennes politiquement, mais Trump sert quasiment d'exemple utile pour eux de quelqu'un qui semble immoral, qui semble idiot, de sorte qu'ils puissent conserver toute leur richesse, tous leurs avantages, tous leurs privilèges sociaux, et en même temps bénéficier d'une supériorité morale sur les républicains. Donc ils n'ont pas vraiment trouvé moyen de s'opposer à cette tendance anti-intellectuelle.
8h50 sur France Culture, nous poursuivons l'analyse, le décryptage des résultats de ces élections à mi-mandat aux États-Unis des matins spéciaux, donc en compagnie notamment de Constance Borne. Vous représentez les démocrates. Quel est votre point de vue sur ce que l'on vient de dire?
Je voulais dire que Rachel Kushner a fortement écrit des romans sur les États-Unis qui sont traumatiques et cauchemardesques sur une situation qui existe aux États-Unis. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure d'une renouvellement, disons, du Parti démocrate, je pense que, pour lier la politique à ça, le Parti démocrate a perdu son chemin et beaucoup de nous qui sommes dans le Parti démocrate reconnaissent que le Parti a perdu son chemin et il a manqué d'aider ceux qui ont vraiment besoin, comme il faisait autrefois. Et ça s'est passé surtout dans les années Clinton, suivi malheureusement de Obama, qui ne pouvait presque rien faire. Et aujourd'hui, j'ai un peu d'espoir avec l'élection qu'on a vue et avec les personnages qui réapparaissent sur la scène politique aux États-Unis. C'est peut-être trop tard, mais il y a quand même pour moi un espoir que quelque chose va se passer avec cette nouvelle identité et discours.
Nous sommes en ligne avec Hélène Vasilina. Bonjour.
Bonjour.
Hélène Vasilina, vous êtes au Capitole à Washington. Vous êtes géopolitologue et vous êtes spécialiste de la politique américaine. Votre point de vue sur ce scrutin?
Écoutez, normalement, d'abord, je salue Constance Borde de Loire, bonjour Connie. ce scrutin a un effet naturel, disons, de notre démocratie. C'est-à-dire, d'habitude, le parti adverse perd ses 63 sièges, et ça depuis 1902. Donc, ce n'est pas une surprise pour cette Chambre de basculer vers les démocrates. Ça s'appelle le balance of power, ou l'équilibre de pouvoir aux États-Unis. Ça veut dire que la démocratie fonctionne bien. Je féliciterai Constance et le Parti démocrate pour avoir plus de candidats, par exemple femmes, dans ce scrutin, plutôt que c'est sûr que les Républicains n'ont pas su au moins attirer les femmes dans cet électorat pour dire qu'il y avait dans ces candidats 59 républicains vis-à-vis 198 démocrates candidats. Mmh. On remarquera aussi dans ce scrutin, on mobilise beaucoup des deux côtés et le ground game qu'on appelle, que Constance connaît très bien, c'est-à-dire la mobilisation de porte à porte, vraiment personne à personne, pour mobiliser des votants. Ici, on n'a jamais plus voté qu'avant et on dirait qu'il y a 196 millions de démocrates qui ont voté, tandis que 133 millions ont voté par exemple pour les gouverneurs dans les États différents. Cette scrutin est sûr que ça va maintenant tourner vers les deux dernières années du mandat du président Trump qui va donner d'autres chemins à faire, par exemple les projets d'infrastructure qu'il a voulu faire aussi le président, mais aussi avec les démocrates. Donc je pense et j'espère qu'il y aura un peu de leadership du part du président ainsi que des coopérations avec les démocrates dans la Chambre.
Merci Hélène Vasilina pour ce point de vue. Les résultats continuent à tomber. Camille Magnard.
Alors on est sur une on conforte la tendance à la Chambre des représentants avec désormais 216 démocrates élus. La majorité absolue c'est 218. Les républicains eux sont à 192. Ils ont perdu 26 sièges donc au Congrès dans ces élections à mi-mandat. Et on parlait à l'instant de la participation. C'est vrai qu'elle a été très forte. C'est ce que nous dit le New York Times en une de son site internet qui vient d'être actualisé. Une participation très forte qui illustre, nous dit le New York Times, le contre-coup pour Donald Trump après 2 ans de présidence, mais qui nous dit aussi, puisque le Sénat, lui, reste aux mains des républicains, que la société et la politique américaine est peut-être de plus en plus profondément divisée.
Et on va écouter l'une des nouvelles figures de ces élections, Alexandra Ocasio-Cortez. Elle a 29 ans, elle est originaire du Bronx. On l'écoute.
Ma mère était femme de ménage, puis a conduit des bus scolaires. Mon père est décédé en 2008 et ma famille était au fond du gouffre à cause de la crise financière. Et c'est pour cela que j'ai commencé à travailler comme serveuse et barmaid afin que ma mère puisse conserver sa maison. Je comprends la douleur des travailleurs américains parce que j'ai vécu moi-même cette douleur et l'urgence de cette crise économique. Nous défendons les immigrés, nous défendons la communauté LGBT et nous croyons que chaque ouvrier américain mérite l'opportunité de changer son destin économique et l'avenir de ses enfants. C'est ce message que nous devons faire passer pour les élections des midterms.
Alexandria Ocasio-Cortez, elle a été élue à la Chambre des représentants. Elle représente cette nouvelle génération. Elle ressemble aussi, pour son âge, à votre héroïne Rachel Kushner, l'héroïne du Mars Club. Est-ce que une femme comme Alexandria Ocasio-Cortez peut marquer une renaissance du Parti démocrate ?
Non, c'est vraiment rien. Il y a une énorme différence entre Ocasio-Cortez et le personnage principal de mon roman. Parce que Ocasio-Cortez ne va pas finir avec une peine d'emprisonnement à vie dans une prison.
Je disais que c'était une jeune femme.
Bien sûr, mais ceux qui terminent en prison...
In hierarchical terms, the lowest, most quote unquote problematic layer of society.
Ils viennent vraiment de la couche la plus basse et la plus entre guillemets problématique de la société. Elle vient de New York, elle y est très populaire. C'était enthousiasmant la première fois qu'elle a obtenu la nomination. au moment des primaires, parce qu'au moins, elle appartenait aux socialistes démocrates, au mouvement socialiste démocrate, qui est vraiment quelque chose d'intéressant aux États-Unis, quelque chose d'extrêmement radical. Ça, c'est très signifiant. Je ne sais pas à quel point elle va pouvoir porter leur voix maintenant qu'elle est élue. Nous n'avons pas eu beaucoup de politiciens démocrates qui aient été en mesure de mettre en place des politiques qui fassent vraiment une différence. Pas depuis Lyndon Johnson et son projet de Great Society. En fait, il n'y a pas eu vraiment de différence faite par des élus démocrates pour la vie des pauvres.
J'aimerais terminer sur un point, Mark Wetzman. On a parlé des polémiques qui ont égrené ce scrutin, notamment la caravane des migrants qui a donné lieu à un clip de Trump. On a évoqué l'attentat contre la synagogue de Pittsburgh. Celui-ci a révélé ou prolongé ce que le New York Times, par exemple, a appelé l'ambiguïté de Donald Trump vis-à-vis des juifs américains. Peut-être quelques mots là-dessus, Mark Wetzman.
C'est une question assez complexe parce que l'administration Trump elle-même a été divisée sur ce sujet pendant que tant que Steve Bannon était membre de l'administration. Il y avait une tendance clairement ultranationaliste représentée par lui et qui s'opposait à la tendance représentée par Jared Kushner et qui était considéré comme globaliste. Donc il y a un conflit autour de la question des juifs au sein de l'administration Trump et plus généralement dans l'opinion américaine qui vote enfin pro-Trump. Il y a quelque chose de qui n'est pas complètement clair. Il y a une dissociation entre le soutien nationaliste à Israël et l'attitude des plus ultras vis-à-vis des juifs aux États-Unis, clairement. Par ailleurs, la rhétorique Trump, qui est une rhétorique de division, la rhétorique vis-à-vis de George Soros, vis-à-vis le milliardaire hongrois juif, qui est une cible traditionnelle de tous les gouvernements nationalistes, non seulement aux États-Unis, mais en Europe, appelle bien sûr la montée d'une forme d'antisémitisme au moins verbal et de temps en temps qui passe à l'acte.
Merci à tous, merci Constance Borde, Rachel Herring, Mark Wetzman, Un temps pour haïr chez Grasset, Rachel Kushner, le Mars Club chez Stock, merci à la traductrice de Rachel Kushner, Marguerite Capel, merci à toute l'équipe des Matins, Pauline Chanu, Elodie Piel, Maïwenn Guizou, Roman Bornstein, Léna Demeuret, David Jacoboviez, François-Charles Domergue, Martin Desclosos, YouTube Diego Ac Lopez, merci à Camille Magnard qui m'a prêté main forte pour ces matins de France Culture consacrés à l'élection américaine.